Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon et Rosalie Suc, mais aussi Mélanie Chalandon, Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Adèle Caglar. Dernier temps de notre série consacrée aux nouveaux risques nucléaires, après nous être intéressés lundi et mardi aux problématiques liées à l'arme atomique, hier à la place prépondérante de la Chine dans le business de l'atome, tournons-nous aujourd'hui vers le Japon. Plus de 8 ans après la catastrophe de Fukushima, les conséquences de cet accident nucléaire continuent d'affecter les populations locales et plusieurs questions éthiques, techniques, politiques restent sans réponse concernant la gestion du site et de ses déchets. Fukushima, faire face à la catastrophe, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Il était 16h aujourd'hui au Japon, 8h en France, quand soudain, une explosion dans le premier des bâtiments réacteurs de la centrale nucléaire numéro 1 de Fukushima.
Je connaissais les accidents de Tchernobyl et Three Mile Island, mais je ne pensais pas que ça pouvait arriver au Japon. Et en fait, c'était encore plus grave à Fukushima.
L'espace, c'est un problème, même à Fukushima. Il y a une limite de place pour construire d'autres réservoirs. Dans de telles circonstances, il faut se demander si stocker l'eau est une option qu'on va garder pour toujours.
Je ne veux pas que l'eau contaminée soit rejetée en mer. Ça ternirait notre réputation. Nous, les pêcheurs, on redoute vraiment cette hypothèse.
Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 frappe le Japon, immédiatement suivi d'un tsunami qui dévaste le nord-est de l'île d'Honshu. Touché par la vague, les systèmes de refroidissement s'arrêtent, entraînant la fusion des cœurs de deux de ces réacteurs et la pire catastrophe nucléaire du 21e siècle. Si les irradiations elles-mêmes n'ont officiellement pas fait de victimes, des conséquences semblent pourtant bel et bien sanitaires. Conséquences sanitaires, sans oublier les milliers de personnes qui ont dû être évacuées de la zone, dont la plupart restent aujourd'hui des réfugiés intérieurs. S'agissant du démantèlement du site, il est loin d'être achevé. Et la question du stockage des eaux radioactives, on l'entendait, que certains proposent de relâcher dans l'océan, n'a pas encore été tranchée. 60 ans après le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki, le drame de Fukushima a réveillé le militantisme antinucléaire, incarné notamment par Naoto Kan, premier ministre au moment des faits. Mais face aux coûts économiques et écologique des énergies fossiles et en l'absence de politique de transition vers les énergies vertes, l'atome a finalement gardé une bonne place dans le mix énergétique japonais. Est-ce à dire que rien n'a changé depuis l'accident? Les dysfonctionnements à l'origine de la catastrophe nucléaire ont-ils été réglés? Et d'ailleurs, quels étaient-ils? Quelles sont les mesures prises par les autorités pour y remédier? Sont-elles suffisantes pour évoquer toutes ces questions? Deux invités. Guy Bourg de la Motte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence au département d'études japonaises de l'INALCO. Chercheuse à l'IFRAE, Institut français
de recherche sur l'Asie de l'Est.
Et co-auteur avec Jean-Marie Bouissou, Chloé Froissart et Gilles Vernier de La démocratie en Asie qui est paru chez Piquet. À nos côtés également Mathieu Golen, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes doctorant au Centre de recherche sur les risques et les crises, le CRC de Mines Paris Tech, auteur vous de Le nucléaire en Asie, Fukushima et après qui était paru chez Piquet. Cette histoire d'eau radioactive, on va commencer avec vous Guy Bourg de la Motte. Au cœur de l'été, l'entreprise TEPCO, qui était en charge de l'exploitation de Fukushima Daiichi, annonce qu'il y aura peut-être des largages d'eau radioactive dans l'océan parce qu'il n'y a plus de place sur le site et qu'on ne peut plus stocker les déchets radioactifs. C'est une hypothèse sérieuse. On pense vraiment relâcher de l'eau radioactive dans le Pacifique?
Eh bien, non seulement ça, mais on l'a fait. On l'a fait pendant très longtemps. On continue à le faire, hein, il me semble. Donc, effectivement, ça paraît totalement fou. Ça paraît totalement fou, mais c'est vrai que je crois que malheureusement, les Japonais étaient à court de solutions.
Mathieu Golen, qu'en pensent les politiques? Est-ce qu'effectivement, on pourrait décider à un moment, puisque aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près un millier d'énormes réservoirs, c'est un million de tonnes d'eau radioactive. Visiblement, il n'y a plus de place pour la stocker. Les politiques sont effectivement prêts à entériner cette décision et lâcher l'eau radioactive dans l'océan?
Alors, c'est une vraie problématique, hein, parce que comme vous le dites, il y a un million de tonnes qui ont été accumulées. Et TEPCO estime que dans 3 ans, on ne pourra plus accumuler, il n'y aura plus assez d'espace pour accumuler l'eau contaminée, donc l'eau qui sert au refroidissement des réacteurs aujourd'hui. Mais la question passe pas très bien politiquement, en fait, c'est extrêmement compliqué pour les populations locales déjà. Les pêcheurs, les habitants de Fukushima s'oppose à ce rejet de l'eau dans l'océan Pacifique.
Et l'opinion nippone en général, parce qu'évidemment ceux qui sont directement concernés, les pêcheurs, les habitants, on le comprend, mais l'opinion nippone.
Et l'opinion nippone également, mais aussi les voisins. La Corée du Sud y est formellement opposée. Il y a 2-3 jours, alors il y a une tentative, il y a 2-3 jours, le gouvernement a reçu des diplomates de 22 pays différents pour essayer de faire passer cette idée, mais pour le moment c'est encore à l'étude, ça fait partie de 6 scénarios différents de traitement de cette eau contaminée qui est accumulée.
C'est quoi les autres scénarios ?
Il y a des scénarios de vaporiser l'eau, par exemple. Il y en a d'autres de tout simplement faire des stockages à très long terme sur le Japon, au Japon. Mais tout le monde s'accorde à peu près, au moins chez TEPCO, pour dire, et même chez les politiques, pour dire que le scénario le moins coûteux et le plus réaliste serait de rejeter cette eau qui est en partie traitée, dont on retire en partie des radionucléides, et de le rejeter dans l'océan.
On va revenir évidemment sur la question des responsabilités et la manière dont à la fois TEPCO et le gouvernement ont pris en charge cette catastrophe, mais si on reste un instant sur la gestion aujourd'hui des éléments radioactifs de tout ça, on en est où du démantèlement de cette centrale Guibourg-de-la-Motte?
Là, le deuxième réacteur doit être fermé. C'est ce qui a été annoncé. Bon, pour le premier, c'est extrêmement compliqué. Il y a toujours tout autour une zone qui reste inaccessible et qui va le rester pour une période indéfinie aux 40 000 personnes qui ont été déplacées, qui sont toujours déplacées, plus exactement. Donc la question du démantèlement, effectivement, est très très problématique.
Qui s'occupe de ce site aujourd'hui?
C'est toujours TEPCO. C'est toujours TEPCO qui est sous la responsabilité maintenant d'une autre agence. C'est-à-dire le système de supervision a en effet été changé.
Je parle plutôt des travailleurs.
Les travailleurs.
Qui est-ce qui s'en occupe? Comment est-ce qu'on fait venir des gens comme ça qui vont démanteler un site? Enfin, c'est évidemment être un site extrêmement dangereux. Comment on fait? Il y a des gens qui se proposent. Enfin, je veux dire.
Ils limitent effectivement les durées d'exposition. Après, il y a eu toute une controverse sur au moment en fait de la catastrophe pour savoir quelle main d'œuvre avait en effet été envoyée dès lors que TEPCO avait évacué ses travailleurs. Enfin, qu'ils étaient partis. Toutes les personnes qui étaient en contrat, disons normaux avec eux. Donc ils ont embauché en effet de la main d'œuvre précaire.
Très concrètement, on a parlé de, on a dit ils allaient recruter des marginaux, des SDF.
Voilà, c'est ce qu'on a dit. On a dit également que la mafia, enfin les yakuza avaient contribué à ces arrangements.
Mathieu Golen.
Oui, parce que
informations qui sont confirmées aujourd'hui.
Bien sûr, on savait par exemple que TEPCO donnait 4 niveaux de sous-traitance. En réalité, certains journalistes qui se sont infiltrés sur place, qui se sont fait passer pour des liquidateurs, ont noté qu'il y avait plutôt 8 niveaux de sous-traitance. Et quand on arrive au dernier niveau, effectivement, on a la mafia japonaise qui gère ce recrutement de main-d'œuvre, qui commence à poser un problème, parce que arrivé à un certain seuil, on est obligé de changer les travailleurs. On est déjà à plus de 60 000 personnes qui sont passées sur le site. Et en raison du manque de main-d'œuvre, depuis 2016, on a de nouveau fait augmenter le seuil de radioactivité jusqu'auquel un travailleur peut travailler. Il faut savoir qu'il est aujourd'hui à 250 millisieverts par an. C'est énorme. En France, un travailleur du nucléaire va jusqu'à 20 millisieverts par an. Là, on l'a remonté. On est passé de... En fait,
12 fois plus.
Au début de la catastrophe, on est passé à 250. En 2013, on a redescendu à 100 millisieverts par an. Mais aujourd'hui, en raison du manque de main-d'œuvre, on est obligé de TEPCO, en tout cas, a augmenté les seuils de limite de radioactivité.
Guibourg-de-la-Motte, on entendait tout à l'heure des archives de la catastrophe. Dans les premiers jours de cette catastrophe, les premières analyses, elles avançaient l'idée selon laquelle, au fond, il y avait quelque chose d'un peu imprévisible dans tout ça, et que, comme si finalement, c'était le fruit d'un déchaînement de dame nature qui aurait tout emporté, que d'une certaine manière, finalement, on ne pouvait rien faire. cette vision-là, elle a assez rapidement volé en éclats en réalité, et on a vu toute une série de dysfonctionnements et de responsabilités qui se sont fait jour.
Absolument, et ce sont les Japonais eux-mêmes qui ont fait voler en éclats cette conception, donc il faut leur en rendre le mérite. Il y a eu, en fait, très rapidement, le Parlement a mis en place une commission qui l'a qualifiée d'indépendante, et qui l'était parce qu'elle avait en son sein des scientifiques et des experts, et qui a qualifié la catastrophe d'erreur humaine et non pas de catastrophe naturelle, enfin de catastrophe humaine, non pas naturelle. Et en effet, a souligné la chaîne de dysfonctionnement provenant du système de supervision des centrales.
On va essayer de comprendre justement les responsabilités des uns et des autres, et on va peut-être commencer par TEPCO, Mathieu Golen. Ce qui a donc engendré cette catastrophe nucléaire, c'est le séisme et le tsunami qui a eu derrière. Quelle place tenait le risque sismique dans précisément les scénarios, parce que chaque fois quand vous êtes exploitant de centrale nucléaire, vous avez des scénarios, on regarde les risques, les menaces, etc. Quelle place ça avait dans les scénarios imaginés par TEPCO? Est-ce qu'on avait envisagé ce type de catastrophe naturelle?
Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a un débat pour savoir si le séisme lui-même est la cause de l'accident. C'est, selon les rapports d'enquête, certains concluent à uniquement une causalité liée au tsunami, et d'autres remontent jusqu'au séisme qui aurait pu endommager les tuyauteries et expliquer notamment une montée de pression dans le réacteur numéro 1 avant même l'arrivée du tsunami. Donc il y a déjà un débat de ce côté-là. TEPCO essaye de minimiser l'impact du séisme en disant que toute la cause est uniquement liée au tsunami.
Pourquoi?
Parce que il y avait des problèmes de construction en fait sur la centrale de Fukushima.
C'est pour se protéger de quelque chose. C'est dans son intérêt, j'imagine, de dire qu'il y a eu d'abord un problème avec le séisme.
Oui, c'est pour faire peut-être oublier le fait que l'ANISA, l'agence de sûreté nucléaire, et d'autres organismes comme l'AIEA avaient averti TEPCO avant l'accident de Fukushima. Pour indiquer que les normes sismiques étaient largement insuffisantes. Il faut savoir que la centrale de Fukushima a été construite en partie par General Electric. C'est une des premières centrales au Japon à avoir été construite. Le premier réacteur date de 1967. Et c'est un réacteur Mark 1 qui est exactement construit selon les mêmes normes sismiques que ceux aux États-Unis en fait. Donc il y avait des normes sismiques qui étaient pas du tout valables pour le Japon, qui ensuite dans les années 90 ont été un petit peu revues, mais il était globalement, le risque était sous-évalué.
Guibourg de la Motte, l'une des failles qui est apparue après ce drame, c'est le manque d'indépendance de l'organisme en charge du contrôle, de la supervision de la sûreté des centrales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui posait problème, quel était ce problème de dépendance et s'il a été réglé aujourd'hui?
Oui, en fait, l'organisme qui était chargé de produire la réglementation des centrales et de vérifier son application dépendait du ministère de l'économie qui lui-même était chargé, alors c'était pas la même agence, mais chargé d'assurer la promotion de l'énergie nucléaire. Donc, on avait déjà ce premier problème. Ensuite, à l'intérieur de cette agence, en fait, semi-autonome, si vous voulez, un petit peu comme un établissement public administratif chez nous, le personnel provenait dans les postes à responsabilité du ministère de l'économie. C'est ce qu'on appelle, c'était un système de parachutage assez institutionnalisé. Disons, pour les fins de carrière des hauts fonctionnaires, ils étaient parachutés dans ce type d'établissement.
Donc, il y avait une porosité entre TEPCO et cette agence chargée de la supervision. On était à la fois jugé parti d'une certaine
exactement.
Manière.
Exactement. Donc, premier problème. Ensuite, il y avait un deuxième organisme qui était rattaché au Premier ministre, lui, qui était censé avoir une activité de conseil auprès du Premier ministre et puis de supervision, le cas échéant, enfin, de cette autre agence, donc l'ANISA, mais qui était sans réel pouvoir et qui, en fait, n'a pas vraiment fait son travail non plus. Donc, l'ANISA, elle, donc la première, avait fait des recommandations, en fait, de mise aux normes à plusieurs reprises qui n'ont pas été suivies. Des faits, elle savait que la centrale n'avait pas obtempéré et pourtant ils n'ont pas sanctionné. Donc il y a eu des problèmes de cet ordre pour commencer.
Mathieu Golen, est-ce que ces problèmes ont été réglés depuis?
Alors depuis, effectivement, on a une nouvelle autorité de régulation nucléaire qui a été mise en place en 2012. Qui est cette fois sous la tutelle du ministère de l'Environnement, enfin qui dépend en partie du ministère de l'Environnement. Les normes aujourd'hui post-Fukushima au Japon sont beaucoup plus strictes, au point que pour certaines compagnies d'électricité, mettre aux normes un réacteur coûte autant cher qu'en construire un nouveau. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, en fait, il y a encore très peu de réacteurs qui ont démarré. On n'a que 9 réacteurs qui ont démarré. Alors il y en a 16 autres qui ont passé le dossier auprès de la NRA, mais il y en a beaucoup qui ont été qui vont être démantelés. On en a 16 et 17 même, je crois, et le nombre augmente encore. Par exemple, TEPCO vient d'abandonner l'idée de redémarrer l'ensemble de sa centrale de Kashiwazaki Kaliwa, qui est une des plus grandes centrales, qui est la plus grande centrale au monde, la plus puissante. Et donc TEPCO se retrouve en fait sans Fukushima Daiichi, Fukushima 1, sans Fukushima Daini, qui est au sud de Fukushima Daiichi, qui aussi va être démantelé. Et ils ont été obligés de négocier en fait avec les autorités locales qui sont antinucléaires pour pouvoir redémarrer uniquement les deux réacteurs les plus récents de Kashiwazaki Kaliwa, qui sont le 6 et le 7, et en échange, ils démantèlent les réacteurs de 1 à 5 en fait.
On va revenir sur cette question du redémarrage, mais il y a aussi une question qui se pose. Il se trouve que depuis TEPCO, avant TEPCO était, à l'époque de la catastrophe, TEPCO était une entreprise privée, c'était d'ailleurs le premier exploitant de centrales nucléaires au monde. Aujourd'hui, il a été nationalisé. Pourquoi est-ce qu'on a nationalisé TEPCO? Est-ce que c'est purement et simplement pour des raisons économiques, parce qu'évidemment, les conséquences économiques ont été considérables pour l'entreprise, ou est-ce que c'est aussi pour remettre un petit peu les choses à plat, pour rééquilibrer les pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise? Enfin, est-ce qu'il y a aussi des dispositifs de check and balance, comme disent les anglo-saxons, qui ont été mis en place pour essayer de récupérer un peu de pouvoir et d'influence dans cette entreprise qui était extrêmement puissante?
Elle était extrêmement puissante en effet, il y a eu un problème de communication et de. Alors TEPCO n'avait pas beaucoup d'informations elle-même, hein, certainement, mais il y a eu un problème quand même malgré tout de remonter de l'information qu'ils avaient vraisemblablement jusqu'au Premier ministre. Alors il y a certainement une part de volonté en effet de rétablir un contrôle sur une agence qui, enfin une entreprise qui symboliquement était incarnait en fait la catastrophe.
Passons au gouvernement. Est-ce que le gouvernement nippon de l'époque a pris toutes les bonnes décisions, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être remises en cause, Guy Bourdelamotte?
Une des erreurs qu'ils ont commises, c'était le gouvernement démocrate à l'époque. Donc c'est pas lui qui était responsable de la mise en place de tout ce système dont on a parlé, et en particulier c'est pas lui non plus qui bénéficiait des subventions les plus massives de l'énergie nucléaire et depuis des années, de l'industrie nucléaire et depuis des années. Ça c'était le parti libéral démocrate donc qui est au pouvoir actuellement. Donc le parti démocrate là, c'est le moment, c'est l'alternance, la grande alternance du Japon de tout l'après-guerre. C'est lui qui se retrouve au pouvoir au moment de cette catastrophe. Donc ça c'est vraiment pas de chance. C'est vrai qu'ils étaient arrivés sur un mandat, en plus, sur des promesses électorales de reprise de contrôle par les politiques, avec ce type de slogan de face à l'administration, les politiques doivent décider, il ne faut plus laisser l'administration prendre les décisions, etc. Le pouvoir au peuple, quoi, en quelque sorte. Et évidemment, ça s'est traduit pendant la catastrophe. Il y avait cette défiance, en fait, des démocrates à l'égard de l'administration, alors qui s'est traduit au moment de la catastrophe par des problèmes de communication. C'est-à-dire, il y avait une animosité qui était née depuis l'arrivée au pouvoir en 2009 à l'égard du côté de l'administration, alors même qu'elle avait été plutôt favorable, en fait, hein, cette alternance. Donc, il y avait des réticences du côté de l'alternance de l'administration qui provenaient de ce que les ministres, tout le gouvernement en fait démocrate s'était montré extrêmement défiant à l'égard de cette administration. Et pendant la catastrophe, disons que la défiance, alors côté Premier ministre cette fois, donc côté administration pendant la catastrophe, il y a certainement eu une défiance du pouvoir politique et donc mauvaise remontée, disons, des informations de ce côté. Et côté politique, en fait, la défiance s'est traduite du coup par la mise en place de commissions indépendantes, la nomination d'experts indépendants extérieurs à l'administration, mais qui donc du coup n'étaient pas du tout dans les circuit décisionnel, et puis qu'en plus, l'administration classique en place ne savait pas du tout comment intégrer. C'est quand même un pays qui a l'habitude des procédures, qui aime les procédures, et là, c'était pas du tout le moment, en fait, de déterminer de nouvelles procédures en pleine crise. Donc, ce personnel nouveau qu'on a parachuté, en fait, a plutôt parasité l'action de l'administration. Et donc, M. Kahn, qui était... Un autre élément qu'on lui a reproché, Monsieur Kahn, qui était donc le Premier ministre à l'époque, devant sa difficulté à avoir des informations et puis désireux de se faire une opinion par lui-même, en fait, a pris la décision d'aller sur place et il a survolé la zone en hélicoptère. Et ça, semble-t-il, c'est vraiment quelque chose qu'on lui a reproché aussi. Alors, on aurait pu lui reprocher, la population lui aurait peut-être reproché l'inverse. Mais là, l'administration a considéré que vraiment, ça avait considérablement retardé ses interventions parce que, encore une fois, pays protocolaire, il fallait préparer cette visite alors qu'il trouvait qu'il ils avaient mieux à faire.
Sur Mathieu ça, Bollen. En fait, il y a quand même un débat, il y a différentes versions sur cette intervention le 12 mars de Cannes. Si on lit l'audition, par exemple, du directeur de la centrale, lui, en fait, explique finalement que tout ce débat entre administration, Naotokan et le siège à TEPCO était un peu vain, parce qu'en fait, eux, s'étaient autonomisés complètement par rapport à ce qui se passait à l'extérieur. De toute façon, ils avaient des problèmes de communication.
Eux,
les travailleurs de Fukushima et le directeur de la centrale au sein de la centrale.
D'accord.
Et finalement, ceux qui ont empêché que la catastrophe de Fukushima devienne encore plus importante que ce qu'elle aurait pu devenir, bien plus importante qu'elle a été.
C'est qu'ils ont pris des décisions en toute indépendance.
Ouais. Et par exemple, le fait que Kan Naoto est venu sur place, Masao Yoshida explique que finalement, eux continuent à travailler.
Ils ont géré ça, la
et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils venaient sur place, mais que... Alors, on peut comprendre pourquoi Kan Naoto venait, par ailleurs, parce que lui avait très peu d'informations qui revenaient du siège, donc il se posait beaucoup de questions.
Mais finalement, ont continué. Oui. Ils ont pris des décisions, pourquoi? Parce que précisément, elles ne venaient pas du politique, et qu'il y avait urgence et que fallait y aller, ou parce que les décisions qu'on leur demandait d'appliquer n'étaient pas bonnes?
Non, parce qu'il fallait agir, en fait.
On était dans l'urgence et il se passait rien du côté du politique, et donc il fallait prendre des décisions, point.
Non, on peut pas vraiment accuser le politique d'être responsable de la gestion heure par heure de l'accident. C'est quelque chose qui pouvait se gérer uniquement sur place. Et d'ailleurs, le directeur expliquait qu'à un moment donné, ils ont balancé les manuels qui leur servaient en fait à gérer un accident nucléaire, parce que le cas qu'ils avaient en face, c'est-à-dire par exemple 3 réacteurs qui rentrent en fusion, il avait même pas été pensé dans les manuels de gestion d'un accident. Donc ils étaient obligés de faire de l'ingénierie, c'est-à-dire de réfléchir, d'imaginer des nouvelles solutions.
Si on prend par exemple la question des évacuations, qui a décidé d'évacuer tant de personnes dans tel périmètre? Qui a décidé, le politique ou les gens de TEPCO qui ont dit à un moment, voilà, le risque il est tel, c'est ça qu'il faut faire, libre de la mode?
Là, c'est les politiques. Mais effectivement, sur la gestion de la centrale au quotidien, c'est pas tellement les politiques en réalité qui pouvaient prendre les décisions. Donc TEPCO,
non, mais sur la question des évacuations.
Sur la question des évacuations, là, c'est bien, en fait. Là, c'est là que la relation entre politique et administration est compliquée. Parce que l'administration, donc le ministère cette fois de l'éducation, c'est lui qui était responsable, qui gérait les informations qui lui provenaient d'un système d'anticipation en fait des émissions radioactives qui s'appelle SPIDI, qui est un modèle mathématique, enfin. Et donc le ministère a eu des informations qui n'a pas fait remonter donc au Premier ministre. En réalité, donc, et la zone d'évacuation qui a été décidée par le politique a été trop étroite, et puis en plus pas vraiment la bonne. Donc là, à ce moment-là, alors le politique là a pris une décision qui a été, parce que malgré tout, ils auraient pu, vous voyez, il y a toujours une évaluation là. Est-ce qu'on prévoit plus large, plus étroit? Et là, ils ont décidé de ne pas alerter la population. Enfin, disons, ils ont plutôt
minimisé les déplacements.
Voilà. Et ensuite, c'est dans un deuxième temps quand, en effet, ils ont accru la zone d'évacuation. Et donc, effectivement, ça leur a été reproché également.
Mathieu Gollen, quelque chose à ajouter? Il y a peut-être aussi un point sur lequel je voudrais vous entendre, c'est qu'il se trouve que, si j'ai bien compris les choses, au moment de la crise, il y a eu 2 cellules de crise précisément. L'une gérée par TEPCO, l'autre gérée par le gouvernement, par les autorités.
Avec très peu de communication.
Comment on se retrouve comme ça, dans cette situation, et justement, quel type d'informations circulent entre les deux? Est-ce que, en gros, on est chacun dans son coin, on gère les choses indépendamment? Est-ce qu'on a parlé, on a essayé d'apporter de la complémentarité dans la réponse? C'est un peu étonnant d'avoir 2 cellules de crise en général. On centralise les informations.
Oui. Je pense qu'en fait, ça n'avait pas. En fait, tout n'avait pas été prévu pour réagir à un accident nucléaire. La cellule de crise du siège de TEPCO était à peine connue en fait du gouvernement. En fait, le gouvernement s'est retrouvé sans information. Il faut comprendre quand même que Naoto Kan est une personnalité politique un peu à part, qui a fait des études dans l'Institut de technologie de Tokyo. Donc c'est quelqu'un qui est fils d'ingénieur aussi, donc c'est quelqu'un qui avait un petit peu un background scientifique, qui faisait que il avait une curiosité, il voulait comprendre ce qui se passait, et il recevait très peu d'informations de TEPCO. Les personnes qui venaient de l'administration au Kantei, à la résidence du Premier ministre, lui disaient, par exemple, Monsieur Terasaka, qui était le directeur de la NISA, lui disait: je suis incapable de répondre aux questions, moi j'ai fait des études d'économie, je ne comprends rien. Donc il s'est retrouvé, on peut comprendre son énervement et sa volonté. Et il a fallu attendre effectivement le 4 14 mars pour que Kan Naoto débarque au siège de TEPCO, se rend compte qu'en fait il y a effectivement une cellule de crise qui est en communication permanente avec différentes centrales par vidéoconférence, et ce qui a provoqué son énervement parce qu'il était même pas au courant en fait de tout ça. Et à partir de là, en fait, il y a eu une cellule de crise commune qui a été mise en place à partir du 14 mars.
Où est-ce qu'on en est, Guy Bourdelamotte, des poursuites judiciaires ?
Les poursuites judiciaires, elles ont abouti. La justice a sanctionné. Il y a eu des décisions qui ont été rendues. Alors, je crois que la dernière en date a bénéficié à 150 plaignants qui se sont vus octroyer 3 millions d'euros.
Avaient demandé 100 fois plus.
Ils avaient demandé 100 fois plus, oui.
Ils avaient demandé 2,8 milliards, ils ont eu 2,8 millions.
C'est les derniers mois qu'ils ont obtenu gain de cause devant la justice. C'est pas une justice à l'américaine qui a octroyé des dommages et intérêts, vous voyez, colossaux. On est plutôt dans des échelles françaises de degré d'indemnisation. Alors, c'est certainement insuffisant au regard des cancers développés, observés même chez les enfants, parce qu'évidemment, les cours d'école, etc., tout a été... irradié à un moment donné, soi-disant pour préserver les enfants des radiations, on mettait des bouteilles d'eau, vous voyez, qui étaient censées qui étaient censées capter la radioactivité du sol. Bon, je sais pas si ça marche ça, mais c'est un petit côté remède de grand-mère qui me laisse un peu sceptique. Enfin voilà, donc effectivement, de fait est, le fait est que les cancers ont complètement explosé.
Il y a un procès pénal de TEPCO et de ses dirigeants, je crois qu'il s'est ouvert l'année dernière.
Qui a abouti d'ailleurs à une condamnation de 5 ans de prison ferme pour trois anciens dirigeants de TEPCO. L'ancien président du conseil d'administration et deux anciens directeurs généraux. Ouais.
Le Premier ministre de l'époque, on en a beaucoup parlé, Naoto Kan, il s'est aujourd'hui engagé dans un combat contre le nucléaire. Il se trouve qu'il était sur l'antenne de France Culture, je crois que c'était au printemps, et vous étiez d'ailleurs présent, Mathieu Gollen, en plateau. Désormais, lui, très clairement, il préconise la sortie totale du nucléaire. J'aimerais avoir une idée de ce que représente aujourd'hui ce mouvement antinucléaire au Japon. Comment, dans quelle proportion est-ce qu'il s'est renforcé, justement, après cette catastrophe de Fukushima? Est-ce qu'il est vraiment aujourd'hui très fort? Qu'est-ce qu'il représente dans le paysage politique? Guy Bourdelamotte.
Le mouvement anti-nucléaire, c'est quand même, en fait, il a existé à un moment donné. Il y a eu des manifestations vraiment soutenues contre le nucléaire après la catastrophe, dans un pays où on n'est pas prompt à descendre dans la rue. Mais c'est vrai que par la suite, Monsieur Abe a néanmoins été réélu, alors qu'il avait très clairement annoncé que son intention était de rouvrir les centrales,
conservateur,
de les faire redémarrer. Il est conservateur, et c'est vrai que malgré tout, les gens n'ont pas envie de payer leur électricité trois fois plus cher. Alors, au moment de la catastrophe, ils ont été extrêmement réactifs. Tout le monde a très, très bien réagi. C'est-à-dire que chacun a diminué sa consommation d'énergie vraiment très, très scrupuleusement. Les entreprises se sont mises à travailler la nuit pour lisser la consommation. Ça a été vraiment un effort assez remarquable. C'est un pays où on fait attention, en plus, à ne pas mettre trop de chauffage ou trop d'air conditionné. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas envie de dépenser beaucoup plus pour une énergie qui, pendant un temps, on a donc substitué au nucléaire des énergies fossiles, donc ce qui a placé la balance commerciale en déficit. Ça présente effectivement d'énormes inconvénients. La substitution d'un modèle à un autre, les Japonais ont le même problème que nous, c'est-à-dire qu'ils ont complètement investi dans un schéma industriel, et on sait bien que pour sortir d'un schéma comme ça, on l'a vu avec le charbon, le nucléaire, c'est la même chose. Il y a un coût énorme après des investissements colossaux. Donc, les industries renouvelables, elles ont été vraiment encouragées par M. Kan, justement, à partir de 2012. Il a fait adopter une loi, puis après il a tiré sa révérence, il est parti, ça faisait partie du deal. Mais c'est vrai que le temps qu'elle monte en puissance, après on voit bien qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, comment on recycle les panneaux photovoltaïques, etc. Donc effectivement, le nucléaire apparaît quand même malgré tout comme une bonne solution, enfin moins mauvaise.
Mathieu Gollen, un mouvement antinucléaire peut-être pas aussi fort que ce qu'on aurait pu attendre?
Ah si, il a été assez important. Faut savoir que le mouvement anti-nucléaire existait un petit peu avant, mais c'est vrai qu'il était d'une ampleur très très faible. Après l'accident de Fukushima, on a eu quand même des manifestations très régulières, notamment devant la résidence du Premier ministre, qui rassemblait des dizaines de milliers de personnes. On a même compté jusqu'à 150 000 personnes à la veille du redémarrage du premier réacteur.
C'est très peu au regard de la population totale.
Au regard de la population totale, c'est très peu. Mais au regard de ce qui se faisait au Japon avant, c'était la plus grosse manifestation qu'il y avait eu depuis 40 ans. Donc il faut aussi regarder par rapport au contexte.
Mais il y a une différence. Est-ce que le mouvement antinucléaire s'est radicalisé ou est-ce qu'il s'est vraiment élargi?
Alors, je ne pense pas qu'ils soient radicalisés, c'était des manifestations pacifistes.
Quand je dis radicalisé, vous le disiez vous-même, on n'avait pas l'habitude au Japon de descendre dans la rue, on l'a fait devant la résidence du Premier ministre. Radicalisé, peut-être je devrais nuancer, mais en tout cas, peut-être que les modalités d'action ont changé, qu'effectivement, ceux qui étaient déjà des antinucléaires ont fait des actions peut-être plus fortes, mais que d'une certaine manière, l'opinion au global n'a pas tellement changé son rapport à l'atome. C'est la question que je me posais.
Si, elle a complètement changé son rapport à l'atome. Ouais. Elle a changé même avant Fukushima en réalité, à partir des années 80, à partir de l'accident de Tchernobyl, on commence à avoir un basculement de l'opinion. Jusqu'alors, les Japonais soutenaient à plus des deux tiers l'atome. À partir des années 80, ça commence. Il faut savoir qu'il y a d'autres accidents avant Fukushima, en fait. Il y a eu plusieurs incidents en 1995 sur le surgénérateur. En 1999, il y a eu un très grave accident à Tokaimura qui a conduit à l'évacuation de 300 000 habitants pendant plusieurs jours, avec 200 personnes irradiées, des morts parmi les travailleurs. Donc il y avait quand même une situation dans les centrales nucléaires qui allait pas très bien et qui faisait que la population était déjà... en tout cas qui se posaient des questions sur le nucléaire. Et après l'accident de Fukushima, et c'est encore vrai aujourd'hui, tous les sondages montrent que la population est très majoritairement opposée au nucléaire, au redémarrage. Mais et pour revenir sur l'élection de Shinzo Abe, c'est vrai que ça a posé question, parce qu'on pouvait se demander pourquoi la population japonaise revenait vers le PLD qui était effectivement pro-nucléaire après Fukushima. Je pense qu'en fait Shinzo Abe est revenu au pouvoir surtout pour des questions qui étaient très différentes en fait du nucléaire, notamment le rapport avec la Chine, avec une controverse autour des îles Senkaku que se partage la Chine.
Senkaku, Diaou.
Diaou. Ouais.
Ah, non, il faut dire les deux côtés.
D'accord.
Guibourg de la Motte. Ouais. La question que je me pose, c'est celle du poids de ces mouvements nucléaires et de la manière dont ils sont relayés ou non dans le paysage politique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des partis politiques au Japon qui portent un projet antinucléaire, qui poussent pour sortir complètement du nucléaire?
Il y a eu mais il n'y a plus vraiment. Et puis ça a été un micro-parti. Ouais, non, ça c'est fini. Alors sur le retour au pouvoir du PLD, c'est aussi un rejet du Parti démocrate et puis tout simplement la décomposition de l'opposition. Enfin, il y a toutes sortes de raisons, effectivement, parce que bon, même la Chine, c'est plutôt des raisons économiques, le programme économique d'Abe, la déflation, etc. Il y a eu toutes sortes de choses qu'on jouait, il était assez crédible malgré tout. Et effectivement, le nucléaire est passé à côté. De même, il disait, je vais réviser la Constitution, ça aussi c'est passé à côté. Si vous voulez, il y a quand même les considérations qui dominent dans les élections, elles sont un peu les mêmes partout malgré tout. C'est le pouvoir d'achat, les retraites, la croissance. Les gens pensent quand même avant tout en termes économiques malgré tout. Mais il y a eu une prise de conscience vraiment avec la catastrophe. En fait, si vous voulez, avant ça, il y avait une sorte de dichotomie qui s'était établie entre l'atome militaire qui était mauvais. Lui, on n'en voulait pas. Les Japonais irradiés, etc. Le peuple irradié. Voilà, cette identité-là, ils y tiennent énormément. Et donc, il y avait ce rejet. Et les mouvements, en fait, extrêmes, s'exprimaient plutôt contre le nucléaire. Extrêmes, et puis politiques, et puis des mouvements même symboliques, d'ampleur, le rejet par les maires du Japon, etc. Un mouvement de rejet municipal, etc., du nucléaire. L'atome civil, enfin celui de l'énergie nucléaire, lui, il était gentil, ça allait. En fait, ça, c'est disons, à partir des années, il y a toute une campagne qui est mise en œuvre vraiment au moment où le gouvernement décide à développer l'énergie nucléaire, alors pour toutes sortes de raisons, hein, à partir des années 50, qui vise en fait à faire passer ce message dans la population, c'est-à-dire qu'il y a un usage admissible de l'énergie nucléaire, enfin de l'atome, qui est énergétique. Et là, en fait, effectivement, il y avait eu des catastrophes, et donc il y a toujours une frange de la population qui n'aimait pas, mais c'est vrai qu'avec Fukushima, il y a une prise de conscience malgré tout, y compris en France, certainement. Vous voyez, on était quand même, nous aussi, un pays où le nucléaire, ça faisait quand même partie de nos vies. Bon, et il y a une prise de conscience malgré tout des risques, et puis des problèmes, et puis de l'ampleur considérable de ces problèmes quand ils surviennent.
Mais qui ne se traduit absolument pas dans des décisions politiques.
Un petit peu.
Dans le sens, en France...
Ah oui, en France, donc vous avez raison. Oui, et puis c'est vrai au Japon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on devient plus rigoureux sur les normes, malgré tout, comme le disait Mathieu Golen tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la promotion des énergies renouvelables, etc. Mais c'est vrai que fondamentalement, on a mis en place un système qui fait que c'est plus propre que les énergies fossiles. Il y a une urgence climatique, et on espère malgré tout trouver une solution du côté nucléaire.
Et puis il y a une réalité au niveau du mix énergétique, c'est qu'il y a le vœu du gouvernement, du métier, de relancer le nucléaire à hauteur de 20 à 22% d'ici 2030. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est plutôt aux alentours de 7%. On n'arrive pas à redémarrer tous les réacteurs. Alors que, à côté, j'ai les chiffres, l'énergie renouvelable, l'objectif est d'arriver à 22-24%. Et effectivement, on a 16% dans le mix énergétique d'énergie renouvelable aujourd'hui.
Comment vous comprenez ce paradoxe, Mathieu Gollen, que décrivait à l'instant Guy Bourdelamotte, c'est-à-dire le fait que, évidemment, le Japon, c'est le seul pays à avoir fait l'objet de frappes nucléaires, Nagasaki et Hiroshima, et qui pourtant a été un pays qui, assez vite, assez tôt, assez fort, s'est nucléarisé. Ça a été le troisième pays le plus nucléarisé au monde. Je parle de nucléaire, évidemment, civil. Comment comprendre ce paradoxe?
Alors, d'abord, il faut savoir que les États-Unis ont beaucoup œuvré à ce que le nucléaire civil soit développé au Japon. Dès la fin de l'occupation japonaise, il y a dans le traité de San Francisco en 1951, il y a deux clauses qui ont été mises, qui autorisaient le Japon à reprendre des recherches sur le nucléaire et à reprendre des recherches sur l'armement. Et par ailleurs, c'était une époque où on avait Eisenhower qui faisait le discours sur Atoms for Peace, où il fallait oublier un petit peu le nucléaire militaire et le remplacer par l'atome pour la paix. Et le Japon a complètement adhéré en fait à cela. Il y avait un jeune député à l'époque, Nakasone Yasuhiro, qui est ensuite devenu Premier ministre, qui a œuvré dès 54 pour qu'on mette en place une commission à l'énergie nucléaire. Et voilà, je pense que il n'y avait pas que le Japon, en fait, à l'époque. L'ensemble du monde, en fait, adhérait à cette idée d'une énergie nucléaire qui allait apporter la prospérité, qui était simple. On voyait pas encore les problèmes de déchets nucléaires, d'accidents potentiels. Les accidents, on pensait que la probabilité était extrêmement faible. Et quelque part, il y a peut-être eu la volonté pour les Japonais d'exorciser l'horreur d'Hiroshima et Nagasaki en contrôlant cet atome et en faisant quelque chose pour la paix, pour la prospérité économique.
C'est vrai qu'on parle de la question des déplacements et des retours des populations. Vous disiez tout à l'heure, Guy Bourdelamotte, 450 000 personnes au plus fort ont été déplacées. Je propose d'écouter le témoignage de cet homme. On est à Namie, une petite ville de la préfecture de Fukushima, Toyotaka Kanakura, qui revient après avoir été contraint de fermer son commerce. Donc en mars 2011, on est là en janvier 2019, extrait d'un reportage de France 2.
J'étais là au moment du séisme. Et puis le lendemain, on a dû évacuer après l'explosion de la centrale. Ça fait 7 ans que ma boutique est abandonnée.
La centrale n'est vraiment pas loin, mais on veut aider cette ville à tourner la page. Ici, on fait dans l'énergie renouvelable et on pense que ça va vraiment permettre de reconstruire.
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Guy Bourdelamotte? Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont rentrées chez eux, celles qui restent des réfugiés intérieurs? Commençons par des chiffres déjà.
Et il resterait à peu près 40 000 personnes donc, déplacées.
Il semble, d'après ce que j'ai lu, qu'il y ait une forme d'empressement peut-être des autorités à... à pousser un peu les gens vers le retour, à la fois du côté du gouvernement, mais aussi des autorités locales. Pourquoi cet empressement ?
D'abord, les gens ont envie de rentrer chez eux, hein, malgré tout, souvent. Ensuite, les autorités locales n'ont pas envie d'avoir des villages morts, hein, quand elles subsistent, c'est-à-dire quand
Si c'est des zones dangereuses.
Voilà, si ce sont des zones dangereuses, alors c'est là qu'il faut faire la part. Enfin, il faut essayer de discriminer, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment des zones qui vont rester totalement inaccessibles, et puis il y en a d'autres sur lesquelles un gros travail a été fait, hein, de nettoyage de tonnes de terre. Qu'on a réparti sur deux collectivités, enterrées, etc., dans l'espoir de pouvoir faire rentrer des gens qui sont actuellement dans des mobil-homes, enfin, si vous voulez, donc ce ne sont pas des conditions de vie très, très agréables.
Mathieu Gollen, il n'y a pas de précipitation?
Pour le moment, ça en partie un échec tout de même. Il y a quelques villages qui ont été réouverts, mais on estime qu'il y a à peu près que 15% des habitants qui reviennent, souvent des personnes âgées. On est à 8 ans après la catastrophe, il y a beaucoup de personnes qui ont refait leur vie ailleurs et qui n'ont pas envie de revenir dans ces territoires. D'autant plus que il y a des critiques sur cette décontamination. On décontamine autour des maisons, sur les toits, mais il y a des forêts entières en fait qui sont contaminées par des radionucléides. Et il suffit d'un incendie de forêt ou un simple vent, quelque chose, pour ramener des radionucléides dans ces villages. Donc finalement, les habitants sont pas très sont pas très convaincus, en tout cas pour le moment. Et on peut se demander pourquoi le gouvernement fait ça. Alors là, on peut formuler certaines hypothèses, mais je pense qu'il y a une volonté du gouvernement d'aller vers un retour à la normale, plutôt que d'être résilient, de dire on va revenir vraiment comme c'était avant. Et pourquoi ? Bah, sans doute aussi pour donner une bonne image du nucléaire, montrer qu'on peut revenir à la normale après un accident nucléaire. Et aussi, en partie, ça a été voulu par Shinzo Abe, parce que le Japon organise les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et donc, à l'époque,
il faut que tout soit normal.
Il faut tout apparaître comme normal.
Dans quelles conditions on revient chez soi ? Est-ce qu'il y a une forme d'accompagnement économique, psychologique, que sais-je encore ? Ou est-ce qu'on dit aux gens, ça y est, on ouvre les portes, vous pouvez rentrer, faites comme vous
voulez. Je ne crois pas qu'il y ait tellement d'accompagnement. À ma connaissance, il n'y en a pas.
Mathieu Gollet.
Non.
Aucun accompagnement.
En fait, il y a même... il y a des indemnités qui étaient versées par TEPCO aux personnes qui ont été évacuées. Selon des barèmes extrêmement compliqués,
qui ont été révisés un peu plus étroitement.
Et surtout, TEPCO en fait a mis dans la balance le fait du moment que certains villages ont été rouverts, TEPCO a mis dans la balance maintenant vous pouvez rentrer chez vous. On n'a plus besoin de vous verser des indemnités. Donc c'est plutôt de ce côté-là que ça a joué. Ouais.
On est avec vous, Guy Bourg-de-Lamotte, et vous, Mathieu Gollet, dans cette série consacrée au nucléaire, Fukushima, faire face à la catastrophe. On va parler d'une autre catastrophe, celle de Tchernobyl, et regarder ce qu'on nous propose en termes de représentation. Il y a une série très récente qui a eu un succès absolument fou, qui s'appelle Tchernobyl, extrait précisément de cette série qui avait été diffusée du 6 mai au 3 juin dernier. Allez, extrait.
Camarade Yakov, qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ignore. Il y a le feu dans la salle des turbines. La salle des turbines. Le réservoir de contrôle de l'hydrogène. Vous et Toptounov, vous avez fait exploser le réservoir.
Non, c'est pas moi.
C'est une urgence. Tout le monde reste calme. Notre priorité absolue,
c'est... Il a explosé !
Nous le savons. Est-ce que nous refroidissons le cœur du réacteur ?
On l'a éteint, mais les barres de contrôle ne sont pas... totalement descendu. J'ai débrayé.
Très bien, je vais déconnecter les servomoteurs depuis la console de secours. Vous deux allez actionner les pompes auxiliaires. Il faut que l'eau circule dans le cœur du réacteur. C'est tout ce qui compte.
Il n'y a plus de cœur. Il a explosé. Le cœur a explosé.
Voilà, extrait de Tchernobyl, série britannico-américaine, relatant en 5 épisodes la catastrophe nucléaire survenue en Ukraine en avril 86, inspirée d'ailleurs en partie de la supplication de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015. C'est une série qui a connu un succès totalement inattendu. Aux États-Unis, elle a réuni 9 millions de téléspectateurs sur HBO, auxquels s'ajoutent plus de 6 millions de visionnages en replay. En France, ça a très très bien marché aussi. Son diffuseur, OCS en l'occurrence, n'a pas donné les chiffres, mais il dit que c'est le deuxième plus gros succès de la chaîne après Game of Thrones, donc rendez-vous compte. Alors comment expliquer un tel engouement populaire pour cette production qui au départ était destinée pas franchement à un grand public ? Bonjour Christine Fassert.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes socio-anthropologue à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'IRSN, à l'Université Paris 1. Vous êtes une spécialiste des conséquences éthiques, sociales et politiques des accidents nucléaires. Comment vous comprenez ce succès incroyable de cette série Tchernobyl ?
Bah déjà, je pense que tout simplement, cinématographiquement, c'est une bonne série. Je pense que ça joue un rôle important. Ça fait sans doute résonance aussi, sans doute, avec l'accident de Fukushima. Hein. S'il n'y avait pas eu l'accident de Fukushima, peut-être que les gens se seraient moins intéressés à regarder ce que ça peut être un accident nucléaire. Mais je pense que la qualité de la réalisation compte beaucoup parce que tout à l'heure on a parlé, vos interlocuteurs ont parlé du rôle de Naoto Kan. Il y a eu un film, Le couvercle du soleil, qui relate la réaction du Premier ministre au moment de l'accident de Fukushima, qui a eu aucun succès en France. Moi, je l'ai vu dans des circonstances particulières en avant-première, mais je sais qu'il n'a fait quasiment aucune entrée. Donc, la catastrophe nucléaire n'est pas systématiquement, gage de succès cinématographique. Voilà. Là, je pense que la série, montre des choses auxquelles que beaucoup de gens, je pense, avaient oublié et le montre avec pédagogie, et je pense que ça, c'est important également.
Ce que ça montre aussi, parce que ce qui est intéressant de regarder, c'est ce que ça nous dit de notre rapport au risque nucléaire. Et ce qu'on voit très clairement dans cette série, c'est cette conviction profonde des scientifiques, des responsables, mais aussi des citoyens, qu'au fond, la catastrophe n'est pas possible. Quand les techniciens viennent tour à tour dans le premier épisode expliquer à leurs responsables que le cœur du réacteur n'est plus là, tout simplement parce qu'il a explosé, qu'est-ce qu'on leur répond ? On leur répond, c'est pas possible. En fait, l'accident qui est en train de se produire n'est pas pensable. pensable rationnellement.
Oui, tout à fait. C'est un peu ce que Jean-Pierre Dupuy appelle c'est cette phrase « nous savons, mais nous ne croyons pas ». Et donc, nous ne croyons pas à ce qui est en train d'arriver. Si l'accident est vu comme impossible, c'est exactement la même chose que pour Fukushima. Hein. Les habitants que j'ai pu interviewer là-bas me disaient pour nous, on nous avait toujours dit que l'accident n'était pas possible. C'est le fameux safety myth dont parlent tant les personnes que vous interviewez quand vous leur demandez ce qu'ils vivent maintenant et pourquoi parfois ils ont un tel ressentiment, une telle colère envers l'accident. C'est qu'on leur avait bien dit que ça n'était pas possible. Et pour Tchernobyl, c'est la même chose. Bon, il faut dire que la façon de calculer l'accident nucléaire, les probabilités de fusion du cœur étaient considérées comme extrêmement faibles. Hein. On avait avancé le chiffre de 10 puissance moins 7. C'était les chiffres qui avaient été calculés par les Américains dans les années 70.
Est-ce qu'il y a, Christine Fasser, des erreurs historiques ou scientifiques dans cette série où finalement le déroulement des choses, des événements, les représentations de la catastrophe, ça correspond à peu près à la réalité?
Alors, c'est une question qu'on s'est posée à l'IRSN. On a visionné ensemble la série et puis des experts ont répondu en se disant alors qu'est-ce qui réalise, qu'est-ce qui est pas réaliste, qu'est-ce qui est vrai, faux. Globalement, je pense que beaucoup de choses, globalement, il faut dire une première chose, c'est une fiction, c'est quelque chose de fictionnalisé. Donc si on veut avoir la vérité, une vraie explication de Tchernobyl, c'est sûr qu'il vaut mieux lire un livre sérieux d'une historienne américaine qui s'appelle Sonia Schmidt, Producing Power, et là vous aurez toute l'histoire, comment est-ce qu'on a choisi RBMK, etc. Après là, si on dit voilà, on est dans une série, c'est fictionnalisé, il y a une héroïsation de Legasov, qui n'est peut-être pas aussi magnifique dans la réalité que la façon dont il est présenté, certes, et puis on peut se poser la question aussi de ce qui est montré. Par exemple, à un moment donné, on voit en termes de conséquences sanitaires, en termes d'effets sanitaires. À un moment donné, on voit un pompier ramasser un morceau de graphite et puis quelques minutes après, sa main est toute brûlée. Bon, un expert m'expliquait que non, en fait, les effets se seraient déroulés plutôt plusieurs heures à plusieurs jours plus tard.
Oui, ça c'est dans le premier épisode. Donc il y a quelques incohérences.
Il y a sans doute quelques détails qui sont... Après, pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait d'erreurs fondamentales.
Christine Fasser, il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre et on parle là de représentation. Parce que moi, il y a une impression générale qui me semble sortir de cette série. C'est que cette catastrophe, c'est ce qui est montré, c'est ce qui est représenté, c'est la combinaison d'insuffisance technique, d'insuffisance scientifique, mais aussi de décisions politiques lentes, incohérentes, avec évidemment aussi derrière tout ça comme un pré-effondrement au fond de l'URSS, pré-effondrement avec des moyens économiques, on le voit absolument dérisoires pour encadrer ce type d'activité. On a des scientifiques à l'air hagard qui sont totalement dépassés, qui sont totalement soumis aux politiques, des politiques qui sont un peu ridicules parfois, qui applaudissent dès lors qu'on fait référence au petit père des peuples, Staline. On n'a absolument aucun regard critique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un peu un procès en naïveté, en incompétence ?
Oui, il y a un procès en naïveté, en incompétence, mais en fait, ça c'est clair. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on pourrait imaginer que cette série donne l'image suivante, c'est-à-dire Tchernobyl est un accident soviétique. Et à l'époque, c'est bien comme cela que ça a été présenté. On a beaucoup dit, c'est pas un accident nucléaire, c'est un accident soviétique. Après Fukushima, on a pu dire, c'est pas un accident nucléaire, c'est un accident japonais. Mais je pense que c'est important aussi de reconnaître un chercheur, John Downer, parle de la notion de singularisation de l'accident. Ce qu'il dit, c'est qu'après chaque accident nucléaire, la sphère nucléaire a tendance à singulariser l'accident pour ne pas remettre en question la filière nucléaire. Donc là, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que cette série est vue dénonçant le traitement soviétique de l'accident, ou est-ce que plus généralement, on peut considérer que cette série dénonce aussi l'industrie nucléaire en tant que telle.
On est d'accord qu'on est plutôt sur la première option. On a parfois dit que Tchernobyl, c'était au fond les prémices de l'effondrement de l'URSS. On a même parfois dit que ça l'avait précipité. On a quand même le sentiment, en voyant cette série, qu'on est précisément là pour abonder cette idée, cette théorie. Au fond, Tchernobyl, ce serait la catastrophe technologique, humaine, sanitaire qui a fait tomber l'URSS et aussi peut-être la preuve d'une supériorité supposée de l'Occident. Il y a aussi ça un peu derrière.
Oui, on peut le lire comme cela, je suis d'accord avec vous. Après, je pense que c'est important justement de le documenter et on s'est posé la question à l'IRSN dans le prochain. On a un baromètre qui mesure la perception des risques tous les ans pour 2000 personnes et on a décidé donc de mettre une question l'an prochain. Avez-vous entendu parler de la série Tchernobyl, mais aussi pour ceux qui ont répondu oui à la question, la série a-t-elle changé pour vous votre opinion sur le nucléaire ? Et donc c'est intéressant parce qu'on verra bien si la série effectivement a bien véhiculé plutôt une image d'un accident soviétique, donc qui ne pourrait pas être traité de la même façon dans une grande démocratie libérale, ou est-ce que c'est une série qui change aussi l'opinion des gens sur l'industrie nucléaire elle-même.
Alors c'est parfait, il faudra en reparler parce que j'avais prévu précisément de vous interroger sur l'effet de l'opinion, mais je comprends qu'il va falloir que j'attende un petit peu pour qu'on ait les résultats de cette étude. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté de la Russie, du côté de Moscou, du côté du pouvoir russe, on n'a pas beaucoup aimé cette vision-là de la catastrophe, à tel point d'ailleurs qu'on est en train d'organiser la production d'une contre-série sur l'événement.
Oui, effectivement. Oui, ça montre bien que pour le pouvoir russe, cette vision est très très désagréable à voir. Oui, on imagine que la contre-série, j'ai entendu dire qu'elle montrerait quelque chose de tout à fait différent avec l'intervention d'un espion américain qui serait à l'origine de cette catastrophe. Donc voilà, on peut imaginer que pour les Russes, ça sera un autre traitement de la catastrophe.
Toute dernière réaction, peut-être on arrive au terme de cette émission, Mathieu Golen, justement Christine Fasser faisait référence tout à l'heure au film Fukushima, Le couvercle du soleil, qui raconte justement l'histoire de Naoto Kan, le premier ministre nippon dont on parlait, qui est devenu un anti-nucléaire. Comment expliquer que ce film-là ait eu, j'allais dire, aucun succès, je suis peut-être un peu dur, mais pas beaucoup de succès.
Écoutez, je vais être un peu dur, mais c'est vrai que c'est pas du tout du même niveau que la série de Tchernobyl, hein, pour l'avoir vu, effectivement. On peut comprendre que ce film ait eu aucun succès. Puis le réalisateur même, si on regarde ce qu'il a fait avant, le réalisateur du couvercle du soleil, c'était quelqu'un qui faisait plutôt des navets au Japon, donc effectivement, c'était mal parti pour faire un très bon film. Après, il est très intéressant quand on s'intéresse à la catastrophe de Fukushima, parce que par contre, factuellement, en fait, il reprend un livre écrit par Naoto Kan qui s'appelle Mon cauchemar nucléaire, et il reprend vraiment les faits évoqués par Naoto Kan, donc c'est très intéressant, mais cinématographiquement,
Libre de la mode, vous l'avez vu ?
Je n'ai pas vu, non.
Bon. Merci beaucoup, en tout cas, Christine Fasser, d'avoir été avec nous ce matin. Invités, Guy Bourg de la Motte, de nous avoir éclairé ce matin. Fukushima, faire face à la catastrophe, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes co-auteur de cet ouvrage La démocratie en Asie, qui était paru chez Piquet. Un grand merci également à vous, Mathieu Golen. Je rappellerai vous concernant le nucléaire en Asie, Fukushima et après. Et tiens, Guy Bourg de la Motte, ça sera dans quelques semaines, le Japon dans le monde aux éditions du CNRS. Voilà, il va falloir attendre encore un tout petit peu, mais c'est pour bientôt. 11h52, c'est l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
La protection de notre environnement passe par une modification de notre comportement. Quelle est la meilleure manière de la susciter ? Tel est le sujet de votre chronique ce matin.
Il faut faire honte à ceux qui persistent à aller passer leurs vacances hors des frontières parce que cela les amène en général à utiliser l'avion et que les avions polluent. Il faut cesser d'habiter à plus de 5 ou 6 km de son lieu de travail. Au-delà, on ne peut plus s'y rendre en vélo ou en trottinette. Il faut faire la leçon aussi à ceux et celles qui persistent à consommer de la viande bovine, parce que vaches et veaux relâchent lors de leur rumination d'énormes quantités de méthane dans l'atmosphère et que ce gaz est 30 fois plus nocif pour l'environnement que le CO2. Quels sacrifices êtes-vous prêt à faire pour sauver la planète? À quels éléments de votre confort actuel accepteriez-vous de renoncer? Eh bien, ces injonctions culpabilisantes qu'on lit de plus en plus dans la presse et dans les campagnes d'information gouvernementale ont le don d'énerver Kate Lafan. Kate Lafan enseigne les sciences comportementales à la fameuse LSE, la London School of Economics and Political Science. Et son domaine de recherche, eh bien, c'est la psychologie environnementale, une discipline assez neuve et promise à un certain avenir dans le contexte qui est le nôtre. Et elle trouve maladroit, et pour tout dire contre-productif, de présenter ainsi à l'opinion des choix drastiques entre le bien-être personnel et la moralité. Ce n'est pas ainsi qu'on fera évoluer les comportements, estime-t-elle. Et elle s'appuie notamment pour étayer sa démonstration sur une étude menée par l'équipe d'un confrère, un psychologue social basé, lui, à l'université Simon Fraser en Colombie-Britannique, qui s'appelle Michael Schmidt. Celui-ci dirige, au sein de cette prestigieuse université canadienne, un laboratoire intitulé « Sustainability, Inequality and Social Change ». Et il a établi une liste de 39 comportements pro-environnement. Et il s'est aperçu que 37 d'entre eux étaient considérés comme une source de satisfaction personnelle pour l'échantillon sur lequel ils les avaient testés. Les deux seuls items sur 39 perçus négativement étaient l'usage des transports en commun ou le covoiturage, d'une part, n'utiliser le lave-vaisselle ou le lave-linge que lorsqu'il est plein, de l'autre. C'est peut-être contre-intuitif, mais les comportements pro-environnement, impliquant qu'on y consacre du temps ou de l'argent, apparaissent comme les plus susceptibles de procurer des satisfactions personnelles. Il semble, écrit Kate Lafan, que les gens aiment l'idée de faire des efforts, surtout lorsque ces efforts impliquent des manières de vivre plus simples. Par contre, ils n'aiment pas qu'on leur demande de faire des sacrifices.
Mais Brice, consommer toujours plus peut être aussi considéré comme une source de satisfaction, alors c'est pas favorable à l'environnement.
En réalité, estime notre psychologue environnementaliste, lorsqu'on parle d'un sentiment de satisfaction, de well-being, de bien-être, il faudrait distinguer plus finement. Car certaines émotions positives proviennent tout simplement d'expériences vécues procurant du plaisir, quand d'autres reflètent le sens d'un but. Et elles recourent à la distinction que font pas mal de psychologues entre émotions dites hédoniques, les premières, et eudémoniques, les secondes. Dans ce dernier cas, le bonheur ressenti est provoqué par le sentiment d'un accomplissement personnel, d'avoir un but, de vivre une vie qui a du sens. Or, c'est une des aspirations qui monte d'après les sondages. Pour être utile, dans le domaine de l'environnement, il faut donc s'adresser au désir qu'ont les gens d'avoir un but. Et plus précisément, dit-elle, il faut s'adresser aux besoins qu'ils ressentent dans trois domaines en particulier, à savoir développer leur autonomie, établir des liens de réciprocité, améliorer leurs compétences. On est loin, vous le voyez, d'une écologie punitive ou coercitive, mais plus près de la rhétorique du développement personnel. Alors que des centaines de millions de personnes, en Asie en particulier, sont récemment sorties de la pauvreté et qu'elles accèdent aux objets et services qui rendent la vie plus facile, il serait vain de vouloir sauver la planète en prêchant les sacrifices et les restrictions. Si votre discours pro-environnemental recourt à des appels moraux du type « il va vous falloir faire des sacrifices », poursuit Kate Lafan, eh bien vous êtes simplement en retard d'une évolution sur les mentalités collectives. Il faut encourager les gens à adopter des comportements plus favorables à l'environnement en s'adressant à eux de manière personnelle, en misant sur leur aspiration à se sentir en accord avec eux-mêmes. Il faut surtout leur montrer que les comportements favorables à l'environnement contribuent à améliorer directement leur propre bien-être, tout en préservant aussi, bien sûr, celui des autres et celui des générations à venir. Il faut donc adopter un style positif et non pas punitif, parce que l'époque n'est pas puritaine, mais elle n'est pas nihiliste non plus. L'aspiration à bien vivre n'est pas contradictoire avec celle de donner du sens à ce qu'on fait.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Je vous souhaite un bon week-end parce que désormais le vendredi, on ne vous a plus et on ne vous récupère que le lundi. Donc à lundi, cher Brice, et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.